Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado d'LNH.com. Nicolas Ducharme, je vous parle en ce 3 juin, au lendemain du premier match de la finale de la Coupe Stanley, les Golden Knights qui ont pris l'avance 1-0 contre les Hurricanes de la Caroline avec une victoire de 5-4 dans un match qui a été assez fertile en émotion. Honnêtement, là, méchante game. En bon français, méchante game. Ça a commencé très, très fort. Je suis pas certain que c'est ça à quoi on va avoir droit pour le reste de la série, mais disons-le, ça a donné le ton hier. Tout un match, beaucoup de buts, beaucoup d'échanges d'avance et tout ça. Donc oui, ça a été excellent. On va parler de ça, bien évidemment, aujourd'hui au balado avec les collègues Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage qui vont être avec moi. Ils sont en Caroline, justement. Ils sont à la couverture de la rencontre. Donc, ils vont être avec moi dans quelques secondes. Ceux qui nous regardent vidéo présentement, vous dites, voyons, Nicolas, ton studio, le studio a changé. Ben oui, parce que on est pas à Montréal, présentement. Je ne suis pas à Montréal. Je suis du côté de Buffalo pour la séance d'évaluation des espoirs pour le repêchage 2026. Donc, on est dans le vestiaire aujourd'hui des Bandits, l'équipe de cross de la NLL, oui, de Buffalo. Donc, on enregistre ça. Il joue au KeyBank Center aussi. Donc, c'est pour ça que le décor est un peu différent aujourd'hui. Mais bon, ça vaut la peine parce que là, on va rencontrer, comme j'ai dit, moi et Sébastien Deschambault, on a rencontré les meilleurs espoirs du repêchage, les meilleurs espoirs québécois, francophones, tout ça. Dès ce matin, il y a un texte sur Caleb Malhotra qui est un des meilleurs, peut-être le meilleur espoir au centre pour le repêchage. Vous pouvez lire ça sur lnh.com. Malhotra qui parle un petit peu français. Sa grand-mère est québécoise. Son père, Manny vient d'être nommé en plus entraîneur-chef des Canucks de Vancouver. Donc, Manny parle français. Caleb le parle encore un peu. Il se souvient aussi de quand il a vécu à Montréal à l'âge de 8 ans. On se souvient que Manny a fini sa carrière à Montréal. Donc, j'ai parlé un peu. Il y a quelques autres espoirs là, qui sont essayés en français. Vous allez pouvoir tout lire ça sur lnh.com. Demain, on va avoir un texte aussi avec Gavin McKenna, meilleur espoir nord-américain. Peut-être le premier choix. Et Maple Leafs de Toronto qui sont ici. Donc, les équipes qui rencontrent tous les espoirs présentement. Donc, vraiment, là, suivez-nous. Abonnez-vous pour le podcast parce qu'on va avoir balado en vue du repêchage. On a enregistré des balados ici aussi à Buffalo. Donc, si vous voulez vous préparer là, pour le repêchage, ça va être disponible dans quelques jours, quelques semaines. Dans le cas des balados du repêchage et pour ce qui est de la finale de la Coupe Stanley, ben, on va continuer à parler avec nos collègues Chaumont et Lepage d'ici dans les prochains jours pour la suite de la série finale. Donc, abonnez-vous, hein? Peu importe où vous nous écoutez. Si vous nous écoutez sur lnh.com, ben, on est sur toutes les plateformes, Apple, Spotify, entre autres. Suivez-nous pour être certain de ne pas rater le moindre épisode. Alors, on y va, on les rejoint tous les deux en direct de la Caroline de Raleigh, plus précisément à la suite de ce premier match de la finale de la Coupe Stanley. Guillaume Lepage, salut Guillaume.
Salut Nick.
Et Jean-François Chaumont, salut GF.
Bon matin, messieurs.
Les gars, début de finale de la Coupe Stanley, ça ressemblait à un premier match. Peux-tu dire ça? Ça ressemblait vraiment à un premier match entre deux équipes qui ne s'étaient pas affrontées depuis le début de la saison. C'était un peu tout croche, mais les Golden Knights ont prouvé une chose. C'est une équipe qui n'abandonne pas. On est allé chercher la victoire pour prendre l'avance dans la série.
Ouais, mais les Golden Knights disent que ça reste que c'est dans l'ADN de l'équipe depuis le début des séries. Ils trouvent des façons de revenir dans des matchs. Ils l'ont démontré en finale de l'Ouest contre l'Avalanche. John Tortorella, après le match, disait, quand il dit que c'est un drôle de match, il disait pour quelques minutes, on a bien joué défensivement. Et je peux dire la même chose des Hurricanes, mais pour l'ensemble du match, c'était pas un chef-d'œuvre défensif entre deux équipes qui ne se connaissaient pas encore. Mais il y a eu, si on doit reconnaître certaines forces, les Golden Knights ont réussi à s'adapter au style des Hurricanes. La tempête soufflait fort en première période. C'était déjà 2-0 à mi-chemin en première. John Tortorella a utilisé une pause publicitaire pour rassembler ses joueurs, leur parler, sortir ses yeux méchants. Puis, coup de sifflet suivant, les Golden Knights ont commencé à rebondir, passer du temps en zone adverse. Chez Theodore a marqué un premier but. Ça a ouvert la porte pour un retour. C'est un premier match offensif entre Vegas et Caroline. On verra pour la suite. Mais le premier match aussi de la finale de l'Est, ça n'a pas été un match qui a été l'illustration de cette confrontation entre Montréal et Caroline. Donc, on attendra un petit peu.
C'est un point intéressant que tu amènes parce que je regardais, puis il y a une statistique qui sortait hier. Les Hurricanes, c'est une équipe qui a perdu. C'est l'équipe qui a perdu le plus d'avance dans la saison. Une défaite à la suite d'avoir pris l'avance. 9 défaites à égalité avec les Blue Jackets de Columbus. Mais on a quand même fini au premier rang de la section métropolitaine, puis tout ça. Donc, malgré toutes ces défaites-là, c'est une équipe qui, quand elle rebondit pas seulement pour un petit moment.
Ouais, ben, la seule différence, j'ai un peu de la misère avec le discours de, bon, le premier match contre le Canadien, le premier match contre les Golden Knights, parce que hier, on a vraiment senti, tu sais, dans le premier match contre les Canadiens, c'était les erreurs des Hurricanes à répétition qui ont ouvert la porte aux Canadiens. Hier, c'était des erreurs, mais les erreurs ont été causées par la pression, par l'échec avant des Golden Knights. C'était la première fois des séries, j'ai l'impression que les Hurricanes faisaient face à une équipe qui joue pas exactement de la même façon que les Hurricanes, mais qui prend la même recette. C'est-à-dire qu'on a toujours un gars sur le porteur de la rondelle, ça paraissait pas en première période, mais une fois qu'on l'a compris, en deuxième, c'était drôlement plus égal comme jeu. Donc, je pense pas qu'il y ait une comparaison à faire entre le premier match contre le Canadien et le premier match de cette série-là, mis à part le fait que les Hurricanes l'ont échappé. Je pense que hier, c'était beaucoup plus une question de l'adversaire est au même niveau que nous, puis il va falloir travailler plus fort qu'eux pour réussir à s'en sortir. Fait que, tu sais, dans la série contre les Canadiens, on s'entend, la première période, ça a été un accident de parcours, puis après ça, à partir de la deuxième, les Hurricanes ont pris le contrôle de la rencontre. Hier, on a dû bûcher fort pour revenir à deux reprises. On a quand même comblé deux retards d'un but là, pour presque envoyer le match en prolongation, mais en toute fin de match, c'est une autre erreur. Shane Gostisbehere qui perd sa couverture sur Thomas Hertel, qui se retrouve fin seul dans l'enclave puis qui marque le but qui a fait la différence. Donc, de retour à la table à dessin pour les Hurricanes, mais on se rend compte que ça va être tout un défi là, du côté des Golden Knights.
Mais Guillaume parle de défi, mais devant eux aussi, les Hurricanes, là, ils ont une équipe avec une profondeur. Puis quand tu parles de bien répartir les forces à l'attaque, tu as Jack Eichel qui est au centre du premier trio avec Barbashev, Dorofeyev. C'est un très bon premier trio. Après ça, à l'aile droite du deuxième, tu as Mitch Marner qui joue avec William Karlsson qui, lui, semble renaître depuis son retour au jeu. Puis le troisième trio, tu as quand même Mark Stone et Thomas Hertel. Thomas Hertel a regagné sa touche de marqueur, lui qui avait été 29 matchs sans marquer avant le deuxième tour contre les Ducks d'Anaheim. Donc, c'est une équipe qui ne misera pas uniquement sur un trio. Puis hier, les Hurricanes, ben le premier trio en arrache. Ça, Guillaume a passé sa soirée à grogner contre le 37, André Svechnikov, puis contre le 24, Seth Jarvis.
Ben, je grognais pas, vraiment, je soulignais hier, c'était l'inefficacité.
Non, mais t'as pas été le seul, là. Rod Brind'Amour, ils n'ont pas été tendres avec eux, là.
Non. Puis en matinée,
ils ont fait une bonne présence.
Oui.
Mais justement, c'est quoi le problème? Parce que là, t'es de Rod Brind'Amour, t'as un problème justement. Ton premier trio fonctionne pas, tous tes autres trios fonctionnent. Donc là, tu veux pas briser ce qui fonctionne, mais il n'y a pas de solution présentement pour le premier trio. Comment tu gères ça, là, si t'es Rod Brind'Amour, là?
Je pense que tu te croises les doigts puis t'attends que ça débloque parce que, comme tu le dis, là, le deuxième trio... le trio avec Logan Stankoven, Jackson Blake et Taylor Hall fonctionne à plein régime. Le trio hier d'Eric Staal a sonné la charge pour cette équipe-là. Le quatrième...
Jordan Staal.
Eric Staal sonnait la fameuse sirène chez les Hurricanes. Mais le quatrième trio fonctionne à plein régime aussi. Puis l'autre aspect dont on a moins parlé dans la série contre les Canadiens, c'est le jeu de puissance qui est à 14,1% maintenant, blanchi deux fois hier. Ces trois joueurs-là, Jarvis, Aho et Svechnikov, sont sur la première vague de cet avantage numérique-là. Donc, dans les autres séries, quand on n'avait pas nécessairement besoin d'une avalanche de buts pour gagner, c'est pas si grave de ne pas être efficace en avantage numérique. Je pense pas contre le Canadien, ça a joué beaucoup contre les Hurricanes. Mais là, hier, je pense que les deux avantages numériques des Hurricanes sont survenus quand ils tiraient de l'arrière. Ça leur aurait permis de créer l'égalité, de revenir dans le match. On n'en a pas profité. Puis non seulement pas profité, on a rien fait à peu près. On a dirigé peut-être un ou deux tirs sur la cage de Carter Hart, les passes. C'était un peu n'importe quoi. Donc, c'est vraiment... tu sais, la tenue de ces trois joueurs-là, ça a été une trame narrative contre le Canadien, mais ils ont eu l'aide des autres trios. Là, en finale de la Coupe Stanley, Rod Brind'Amour le disait, faut que tous tes joueurs jouent bien si tu veux parvenir à la Coupe Stanley. Tu n'as pas d'autre choix que ça, donc c'est à ces trois joueurs-là de répondre.
Mais est-ce que c'est de l'entêtement de ne pas changer ton style de jeu? C'est un trio qui joue très Est-Ouest, puis là, tu es en séries éliminatoires. Beaucoup de Nord-Sud, beaucoup d'aller dans le vent de filet, faire dévier des rondelles, bloquer la vue du gardien. Puis est-ce qu'on s'entête du côté de ce trio-là à ne pas encore comprendre ça?
Bien, il peut y avoir une forme d'entêtement, mais quand tu joues pour Rod Brind'Amo, tu dois le comprendre depuis longtemps.
Et oui.
Que l'identité reste plus Nord-Sud que Est-Ouest. Ça reste trois joueurs très talentueux, là, Sébastien Nao, André Svechnikov, Seth Jarvis. Mais en même temps, comme Guillaume disait, je comprends Brind'Amo de ne pas vouloir mélanger ses cartes parce que Stankoven, Blake, Hall forment un super trio. C'est fou à quel point Stankoven se place le nez dans le trafic, vole des rondelles. Même chose pour Jackson Blake. Là, il a un bâton très, très, très actif. Il est fatigant pour créer des revirements. Puis c'est impossible aussi de toucher au trio de Jordan Staal avec Nicolas Ehlers, Jordan Martinook. Ils ont été au cœur de l'attaque. Ehlers a marqué les deux premiers buts du match. Le quatrième trio, c'est un quatrième trio qui connaît son rôle. Donc, si tu veux amener un élément nouveau, un ingrédient différent au premier trio, c'est difficile d'y apporter un changement. Je pense que Brind'Amo commence à marteler, à frapper sur le même clou, comme quoi c'est à eux de trouver des solutions. Ils doivent être meilleurs. Ils le disaient même avant le premier match de la finale de la Coupe Stanley. C'est pas un secret. On aura besoin de les voir noircir la feuille de pointage. Donc, ils placent le défi puis ils laissent ça entre leurs mains.
C'est ironique, là, mais avez-vous l'impression que les séries viennent de commencer pour les Hurricanes? C'est méchant pour les Canadiens, là, je le sais, là, mais de la manière que ça a été pour les Hurricanes, on avait seulement une défaite jusqu'à présent. On n'a peut-être pas fait face à cette adversité-là suffisamment jusqu'à présent?
Ben, les deux équipes, les Golden Knights aussi, ont perdu peu de matchs en route vers la finale. Là,
ouais, mais on a dû travailler contre les Mammouths, on a dû travailler, on n'a pas tout à fait la meilleure équipe. Contre les Ducks, on n'était pas la meilleure équipe en début de série non plus. Là.
Non, c'est un bon point. Ça va être intéressant de voir comment les Hurricanes vont trouver le moyen de répondre à cette adversité-là parce que, c'est ça, comme je disais d'entrée de jeu, on dirait que pour la première fois, ils ont un vrai défi qui va nécessiter... Tu sais, je pense pas que c'est une question tant d'ajustement au niveau du système. Là. Tu sais, c'est un système qui a fait ses preuves, qu'on sait qu'il peut être efficace. Mais quand tu as une équipe qui joue un peu de la même façon, qui le fait peut-être avec un peu mieux pendant un match, ben là, au match suivant, c'est à toi de répondre avec plus d'énergie, plus de hargne peut-être, un petit peu plus de concentration. Tu sais, hier, les erreurs qui sont survenues, ben c'est des détails, mais on est rendu en finale de la Coupe Stanley, ça joue sur des détails. Tu sais, Gustav Bear prenait le blanc pour le dernier but. C'est une fraction de seconde, là. Il est dans les culottes de Thomas Hertel, relâche l'accélérateur pendant une demi-seconde. Hertel prend exactement un ou deux pieds d'avance sur lui, s'en va dans le filet. Donc, tu sais, c'est des détails, mais non, tu as raison de quand même souligner que les Hurricanes ont rarement fait face à de l'adversité. Puis là, on se retrouve déjà... T'sais, les Golden Knights sont allés voler deux matchs au Colorado dans la finale de l'Ouest, ont balayé la série. Tu ne veux pas te retrouver en retard 0-2 contre cette équipe-là en retournant à Vegas. Donc, le plus gros défi de la saison là, jusqu'au prochain, ben, c'est au prochain match pour les Hurricanes.
Je vais emmener un autre point. Quand le match a commencé, Nick Ehlers marque après 30 quelques secondes. Un deuxième but, c'est 2-0. Qu'est-ce qu'on a une conversation là, au travail, là, puis est active hier. Puis ce qui a été écrit, c'est copier-coller. Ça recommence contre, même chose que contre les Canadiens. Je ne sais pas à quel point, à ce moment-là, on a baissé notre garde du côté des Hurricanes. Parce que ça se déroulait exactement comme tout le reste des séries s'est déroulé là, jusqu'à présent. Là.
Il y a Jacob Slavin aussi qui a frappé la barre transversale de plein fouet. Il y a Logan Stankoven qui s'est fait bloquer sur une échappée par Carter Hart. Hart a réalisé un gros arrêt à ce moment-là en première période. Puis un autre élément, on le disait dans la finale de l'Est, Frédéric Anderson, il est prenable comme gardien. Mmh. Il y a des statistiques incroyables qui sont probablement plus le fruit du travail défensif de l'équipe devant lui que les miracles propres du gardien. Puis là, on l'a vu au premier match de la finale de la Coupe Stanley. Est-ce qu'il y a un arrêt déterminant de Frédéric Anderson dans ce match-là? Il n'y a tu sais, Carter Hart a réussi à en faire en fin de rencontre. Il a sorti sa grosse mitaine contre Seth Jarvis. Il y a peu de moments où Anderson a eu à sauver les meubles. Il donne 5 buts dans le premier match. Est-ce que pour lui, ça va être une série complètement différente? Il était à 9,31, son taux d'efficacité, il a chuté à 920. En un match, il a perdu 11 points. Et après 14 matchs, c'est quand même beaucoup. Là. C'est aussi un signe que tu reçois peu de tirs par rencontre. Ça, les Hurricanes, c'est autant on parle du premier trio, mais celui avec les grosses jambières, oui, il y a la belle histoire. Tu sais, ben, la belle histoire. L'histoire triste, là. Frédéric Anderson, on sait qu'il vit un deuil en ce moment avec le décès tragique de Claude Lemieux. Mentalement, il a réussi à se ressaisir. Il a gagné son dernier match contre les Canadiens quelques heures après le départ d'un mentor. Mais là, c'est... Brennamo le disait aussi, il y a eu une question à quelques heures du premier match sur l'impact de Brendan Bossy au cours de la saison, comme quoi Bossy a permis à cette équipe-là de finir au sommet de la division métropolitaine. Brennamo disait, oui, on a adoré son travail, mais on espère ne pas le voir en uniforme. Parce que si on le voit en uniforme, c'est parce qu'il y aurait eu des problèmes devant le filet. Là, c'est juste un match. Il n'y a aucun c'est doute à mes yeux. Tu ouais, continues de faire confiance à Frédéric Anderson. Mais si ça continue de la sorte, ça se...
Mais même en première période aussi, Anderson, c'était mon gros point d'interrogation. Puis je le disais à JF, chaque passe transversale des Golden Knights, de la place où on était sur la galerie de presse, on voyait le fond du filet. Jamais Frederick Anderson était devant la ligne de tir. Les Golden Knights rataient toutes ces occasions-là. Mais j'étais convaincu que si ça se mettait à rentrer, ben ça allait rentrer parce que Anderson, dès le début du match, on le sentait pas vraiment dans son assiette. On le sentait un peu en retard sur les jeux. J'ai l'impression que son tracking, je sais, j'ai pas le mot français, là, mais ouais. Sa manière de suivre la rondelle dans le trafic.
Suivi de rondelle, ouais.
C'est un peu déficient là, quand la rondelle s'en va du côté de la ligne bleue. Puis on le sait, les Golden Knights sont des gros bonhommes. Là. Quand ils placent ça devant le filet, ça devient difficile pour le gardien de suivre la rondelle. Puis à quelques reprises, là, Anderson s'est retrouvé à se mettre en papillon en espérant que la rondelle le frappe parce qu'il ne voyait pas le tir être décoché de la ligne bleue ou les passes transversales et tout ça. Donc, pour moi, c'est le gros, gros point d'interrogation. Là. Oui, j'ai pas vraiment de doute que les Hurricanes vont venir fort dans le deuxième match, mais ça reste qu'il faut que ton gardien fasse des arrêts importants parce que c'est toute une machine offensive là, du côté des Golden Knights qui pourrait faire mal rapidement à cette équipe des Hurricanes.
Puis vous avez parlé de Bossy, là, mais je veux dire, Kochetkov est sur le banc, là, lui aussi. Là. Il y a sa galerie de presse, là, il n'est pas bien. Là, mais
il n'est pas loin de nous sur la galerie de presse.
Ça devait être leur gardien numéro un cette année. Là. Je sais qu'à la longueur de la blessure qu'il y a eu, tout ça, probablement qu'on ne le verra pas. Mais tu sais, t'es Rod Brind'Amo, par exemple, tu subis un deuxième match comme ça où Anderson en laisse rentrer 6. C'est Bossy, probablement.
Ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué, par contre?
Oui, mais c'est ça, l'autre, ça fait plus qu'un mois que ton autre gardien n'a pas bloqué une seule rondelle en situation de match. Ils vont miser sur Anderson, espérer qu'il va se replacer. Comme la structure défensive aussi de l'équipe, là, c'était pas un premier match là, parfait pour les Hurricanes.
Non. Justement, vous vous attendez sûrement pas à des matchs aussi offensifs pour la suite. Là. Ce qu'on a vu hier, c'est pas ce qu'on va voir pour le reste de la série. Là.
Ben, ce serait
moi, je serais surpris. Je pense que les Hurricanes vont vouloir gagner plus 3-1 que 5-4. Là. Ils vont vouloir éteindre les Golden Knights, mais c'est une équipe qui a une puissance offensive assez importante, qui est très bonne en supériorité numérique. Un avantage numérique à 5 attaquants, là, d'ailleurs, la première vague des Golden Knights. Le deuxième match vient vite. C'est dès. Là, on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi.
Non,
c'est jeudi. C'est ça. Jeudi, match numéro 2. Samedi, match numéro 3. Donc, même aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement du côté des deux équipes. Donc, si on a à faire des modifications stratégiques, ça se fait par vidéo. Ça ne passera pas sur la glace. Mais oui, je m'attends à un jeu plus défensif pour le match 2.
L'impact de John Tortorella, t'en as glissé un mot là, son speech durant la première période à 2-0. D'ailleurs, j'ai juste été revoir la statistique quand je disais le plus de défaites, les Hurricanes, là, c'est des défaites quand tu menais par deux buts cette année. Mm-hmm. Donc, on l'a vécu ce scénario-là au moins, on sait comment réagir. l'impact de John Tortorella. Ironiquement, là, il y a eu la statistique, là, ça faisait 21 ans et 360 jours que Tortorella n'avait pas gagné deux matchs en finale de la Coupe Stanley. C'est un record. Ironiquement, il a dépassé Paul Maurice, qui a gagné la Coupe Stanley dans les deux dernières années avec la Floride. Donc, lui aussi, ça datait de 2002. Il est arrivé à la fin de la saison. On est encore sur l'effet Tortorella. Mais quand tu regardes un gars comme Thomas Hertel qui a marqué hier, Thomas Hertel, sa léthargie, il l'a connu dans l'arrivée. S'il y en a un qui n'a pas rebondi à l'arrivée de Tortorella, c'est lui. Là, il ajoute ça. À quel point est-ce que Tortorella est capable de pousser un gars comme ça à être meilleur? Puis justement, à quel point, là, soudainement, si ça peut t'ajouter un trio de plus avec un nouveau Hertel, tu te retrouves dans une situation intéressante, surtout face aux Hurricanes, là, que le premier trio ne fonctionne pas.
Mais ce que John Tortorella dit souvent, par contre, Nick, c'est le discours qui revient quand on lui parle justement de la magie ou de l'effet qu'il a au sein de sa propre équipe. Lui, il répond toujours qu'il a hérité d'une très bonne équipe. Donc, il donne crédit à ses joueurs. Je pense que les Golden Knights, c'était une équipe qui sous-performait pendant plusieurs semaines. Il y avait peut-être une forme d'essoufflement avec le discours de Bruce Cassidy. Puis Mitch Marner, à la journée média, quand il parlait de John Tortorella, l'élément qui ressortait, c'est qu'il nous fait confiance. Oui, quand vient le temps de nous parler, mais il n'y a pas non plus tout chamboulé ou complètement changé le style, la façon, l'image des Golden Knights. Il est arrivé un bon moment. Le train devait finir par partir. Puis là, avec Tortorella, il est en marche.
C'est la même recette, c'est les mêmes ingrédients, mais il a changé l'assaisonnement. Tu comprends? Ouais. Plus de sel.
C'est le sel de Prague, je pense, avec des épices de Montréal.
Toujours des épices de Montréal. Toujours.
On salue Anthony Marcotte. Là, on va. C'est son brisket, c'est Anthony Marcotte. Oui, le sel de Prague.
La recette de brisket d'Anthony Marcotte, ça y est. On va pouvoir faire ça cet été parce que là, on n'a vraiment pas le temps en ce moment de faire du barbecue. Vous avez fin de match. Les Hurricanes tentent de créer l'égalité. Mitch Marner se lance devant un lancé, bloque le lancé. Vous y avez parlé avant le début de la série. C'est un gars qui mène le classement des marqueurs, mais comme on le savait déjà là, à Toronto, là, c'est un gars qui est super efficace défensivement. Il amène de tout. C'est drôle parce que quand on parle de Mitch Marner, un des premiers mots qui revient tout le temps, c'est Toronto, c'est Maple Leafs, c'est tout ça. Comment lui, il voyait ça avant le début de la série quand vous y avez parlé?
C'est moi qui parlais. On s'échangeait les entrevues, Guillaume et moi, pour la journée média. Moi, j'avais le mandat de rencontrer Mitch Marner. Puis honnêtement, Marner a été hyper endormant. Il ne voulait pas revenir sur le passé, se concentrer sur la finale. Il y avait quand même quelques collègues de Toronto. Je peux le comprendre. Pour lui, c'est une histoire ancienne. On est en finale de la Coupe Stanley.
Il voyait venir, là?
Oui, il voyait venir. Mais quand... La phrase qui me revient en tête, c'est quand il décrit justement pourquoi il y a des succès cette année offensivement en série avec les Golden Knights. Sa réponse, c'est parce qu'on a de la profondeur, parce qu'on peut rouler 4 trios, on peut faire confiance à 6 défenseurs, l'attaque est bien répartie. Jamais, jamais, jamais dans sa phrase, il dit Maple Leaf ou Toronto, mais t'as pas besoin d'être Jojo Savard pour comprendre, si tu lis entre les lignes, il parle de Toronto, il parle des Maple Leafs, que c'était justement une faiblesse, cette absence de profondeur. Mais ça, c'était aussi une faiblesse créée par les canons de l'équipe qui ont voulu avoir de gros contrats rapidement. Puis la structure salariale des Maple Leafs était quand même difficile. Ça, c'est l'histoire ancienne. Mais tu sais, ce matin au déjeuner, parce que Guillaume et moi, on a eu le bonheur de se lever, on ouvre la porte, on tombe face à face. Ça, tu sais que tu vas vivre une belle journée dans ce temps-là quand tu vois les yeux de Guillaume qui s'émerveille devant ma propre présence.
Encore une fois, ça tape, hein?
C'était dur. Mais tout ça pour dire qu'au déjeuner, Guillaume, moi, on mangeait avec Mike Zeisberger, collègue de Toronto, puis Luc Gélina de RDS. Puis on a regardé, Guillaume regardait la scène où Mitch Marner bloque un tir. Oui, c'est un tir bloqué. Mais il y a un petit élément chance aussi dans ce tir bloqué-là. Disons qu'il s'est placé au bon endroit, mais il n'était prêt. Oh oui, il n'était pas droit, prêt à attendre le tir, mais il était là. T'sais, après le coup de sifflet aussi, tous ses coéquipiers vont y brasser le casque pour le féliciter. Donc, ça a quand même été un jeu clé là, de la part de Marner.
Il y a deux Québécois dans la série, William Carrier, Jérémy Lauzon. Lauzon fait Deslauriers son retour aussi. Au jeu hier. Comment?
Nicolas Deslauriers également du côté des...
Oui, tu as raison. Puis même
Dominique Charbonneau
qui parle français.
Oui, mais lui, on ne le voit pas.
Il continue à me lancer là-dessus d'autobus, j'apprécie. mais vous vous attendez à quoi de la part de deux joueurs justement qui sont reconnus pour leur jeu physique, le jeu avec les épaules?
Bien, c'est deux gars d'identité, un petit peu plus deux gars qui jouent dans l'ombre. Là. William Carrier à l'aile d'un quatrième trio, mais mène la Ligue nationale pour les mises en échec. Il a joué exactement de la même façon au premier match. Une de ses premières présences, il a pincé Jérémy Lauzon justement derrière le filet des Golden Knights. Lauzon, lui, c'est un gars qui avait pas joué depuis le sixième match contre le Mammouth au premier tour. Donc, il avait quand même, c'était absenté pour une blessure au haut du corps pour quatre semaines. C'était un premier match en finale. Il finit avec un dossier de moins deux, 12-13 minutes. Il y a probablement un petit peu de rouille à chasser dans le cas de Jérémy Lauzon, mais John Tortorella, avant le match, dans une de ses rares bonnes réponses en conférence de presse, disait qu'il s'était ennuyé de Jérémy Lauzon parce que c'est un gars qui a du méchant dans son jeu. Il est bon défensivement, solide. C'est le type de défenseur justement que tu as besoin en série. Puis on l'utilise également en infériorité numérique. Donc, les deux vont avoir un rôle à leur façon. Au sein d'un troisième duo à la ligne bleue, puis un quatrième trio dans le cas de William Carrier.
Good. Les gars, deuxième match jeudi, est-ce que les Hurricanes rebondissent devant leurs partisans?
Moi, je pense que oui.
Oui.
Ça devrait.
L'avantage des ajustements aussi, là? Oui, parfait. Les gars, je laisse partir. Vous en allez justement sur le Nouveau Center directement?
Ouais,
ou...
Oui, le Nouveau Center.
Bon, vous en allez à la patinoire, jaser avec les joueurs. On va pouvoir lire vos textes sur lnh.com. Merci d'avoir été là ce matin pour ce balado. On devrait avoir un prochain rendez-vous dimanche si toutes les choses, si les choses tombent en place. Là, normalement, ça devrait être le cas. Donc, merci beaucoup d'avoir été là à nouveau ce matin.
Ça fait plaisir.
Tu veux pas te dire, Jeff?
Toujours un plaisir. J'attendais parce que je regardais Guillaume. C'est juste par politesse. À bientôt, les boys.
Okay. Chers auditeurs, merci aussi beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Donc, prochain balado, comme vous le savez, abonnez-vous, suivez-nous pour être certain de ne rien manquer de cette finale de la Coupe cette année avec les collègues Chaumont et Lepage. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se reparle très bientôt.